c'est l'heure de retrouver notre émission Pour la dignité. C'est tout de suite cette émission pour les droits humains qui nous est préparée chaque mois par Régis Coulanges, responsable de formation d'Amnesty International. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Voilà, donc cette émission, nous allons parler d'Israël, hein, puisque les événements dramatiques se déroulent de plus en plus, de la Turquie, de l'immigration en France, du Burkina Faso, des technologies de surveillance intrusive, et puis on parlera aussi des actions du groupe Dinois, et notamment son action envers un défenseur des droits humains, un artiste, qui est emprisonné pour avoir simplement exprimé ses opinions par son art. Et on parlera aussi du festival au cinéma pour les droits humains que nous organisons durant tout le mois de mars dans la région, et notamment à Digne. Voilà, donc on va commencer par Israël, où l'apartheid se renforce et les Palestiniens en paient le prix fort. En effet, la ségrégation territoriale, les restrictions de déplacement, les saisies massives de biens fonciers et immobiliers, les expulsions forcées, les détentions arbitraires, les tortures, homicides illégaux. Un an après la sortie de notre rapport, où nous parlions justement d'une situation d'apartheid, les exactions commises par les autorités israéliennes sur les Palestiniens et Palestiniennes se sont encore aggravées. Les autorités israéliennes doivent démanteler le système d'apartheid qui provoque tant de souffrances et d'effusions de sang des deux côtés. Depuis que nous avons lancé une grande campagne contre l'apartheid il y a un an, les forces israéliennes ont tué près de 220 Palestiniens et Palestiniennes, dont 35 pour le seul mois de janvier 2023. En effet, en janvier, une série d'attaques meurtrières a mis en évidence le besoin urgent de mettre fin à une impunité qui nourrit ce cycle de violence. Le 26 janvier, les forces israéliennes ont mené un raid sur le camp de réfugiés de Jenin et tué 10 Palestiniens, dont une femme de 61 ans. Le 27 janvier, 7 civils israéliens ont été tués lorsqu'un Palestinien armé a ouvert le feu à Nev Yaakov, une colonie israélienne de Jérusalem-Est occupée. En réponse à cette attaque, les autorités israéliennes ont intensifié la punition collective contre les Palestiniens et Palestiniennes, procédant à des arrestations massives et menaçant de démolir des maisons à titre punitif. Alors Agnès Callamard, qui est notre secrétaire générale, a dit « Les événements dévastateurs de la semaine dernière ont exposé une fois de plus le coup mortel du système d'apartheid. L'incapacité de la communauté internationale à obliger les autorités israéliennes à rendre des comptes pour l'apartheid et d'autres crimes leur a donné carte blanche pour ségréguer, contrôler et opprimer les Palestiniens au quotidien et contribue à perpétuer une violence meurtrière. L'apartheid est un crime contre l'humanité et il est franchement effrayant de voir les auteurs de ce crime échapper à la justice année après année. » En effet, dans le cadre de l'apartheid, les autorités israéliennes contrôlent pratiquement tous les aspects de la vie des Palestiniens et les soumettent à une oppression et une discrimination quotidienne par le biais de la fragmentation territoriale et de la ségrégation juridique. Les Palestiniens des territoires palestiniens occupés sont séparés en enclaves distinctes, ceux et celles qui vivent dans la bande de Gaza étant isolés du reste du monde par le blocus illégal d'Israël, qui a provoqué une crise humanitaire et constitue une forme de punition collective. Le 1er février 2022, nous avons publié un rapport exposant la manière dont Israël applique un système institutionnalisé d'oppression et de domination contre les Palestiniens et Palestiniennes, partout où il exerce un contrôle sur leurs droits, en Israël, dans les territoires palestiniens occupés, et contre les personnes réfugiées dans la région, en leur refusant le droit au retour. Il a montré comment les lois, les politiques et les pratiques israéliennes sont promulguées dans le but primordial de maintenir une majorité démographique juive et de maximiser le contrôle des terres et des ressources au profit des Israéliens juifs et au détriment des Palestiniens. L'année 2022 est devenue l'une des années les plus meurtrières pour les Palestiniens et Palestiniennes de Cisjordanie occupée depuis au moins 2005. Quelques 153 Palestiniens, dont des dizaines d'enfants, ont été tués par les forces israéliennes, principalement dans le cadre de raids militaires et d'opérations d'arrestation plus nombreux. Nos recherches ont montré que 33 Palestiniens, dont 17 civils, ont été tués par les forces israéliennes lors de leur offensive d'août 2022 sur Gaza, et qu'au moins 7 civils ont été tués par des roquettes lancées par des groupes armés palestiniens. Notre rapport sur l'apartheid a montré comment les expulsions forcées dans la région de Negev-Nakab et dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés sont réalisées dans le but d'atteindre les objectifs démographiques d'Israël. Face à ces violations, la communauté internationale reconnaît de plus en plus que les autorités israéliennes commettent un apartheid. Les Palestiniens et Palestiniennes demandent depuis longtemps que ce qu'ils subissent de la part des autorités israéliennes soit considéré comme un régime d'apartheid, et des organisations palestiniennes de défense des droits humains telles que Al-Haq ou le centre Al-Mezan pour les droits de l'homme ont été à l'avant-garde du plaidoyer de l'ONU à cette fin. La pression pour que de telles reconnaissances, pour une telle reconnaissance a pris de l'ampleur en 2022, lorsque deux rapporteurs spéciaux de l'ONU ont conclu que les autorités israéliennes pratiquaient l'apartheid. Le nombre d'États au Conseil des droits de l'homme faisant référence à l'apartheid d'Israël a doublé, passant de 9 en 2021 à 18 en 2022. L'Afrique du Sud, qui connaît bien ce que c'est l'apartheid, ainsi que la Namibie, font notamment partie des États qui ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le traitement des Palestiniens par Israël constitue un tel crime. Plusieurs organisations internationales et israéliennes de défense des droits humains ont également appelé à la fin de l'apartheid, notamment Human Rights Watch et Yesh Din. En mai 2023, le bilan d'Israël en matière de droits humains sera examiné dans le cadre de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, pour lequel nous avons formulé des recommandations aux autorités israéliennes. Ces dernières ont ignoré la plupart des recommandations formulées par les autres États et approuvé par le Conseil des droits de l'homme lors du précédent cycle d'examen à l'ONU en 2018. Par exemple, bien qu'il ait été exhorté à plusieurs reprises au fil des ans, puis à nouveau en 2018, à mettre fin à la détention administrative, Israël détient actuellement plus de 860 Palestiniens sans inculpation ni procès, le nombre le plus élevé depuis 15 ans. Le mépris de longue date des autorités israéliennes pour leur obligation au regard du droit international et des recommandations de la communauté internationale continue d'avoir des conséquences désastreuses pour les Palestiniens et compromet la protection des droits des Israéliens également, a déclaré Agnès Callamard. Aucun État ne devrait pouvoir bafouer systématiquement le droit international, y compris les résolutions contraignantes du Conseil de sécurité des Nations Unies, en toute impunité. Nous appelons les États à cesser toute forme de soutien aux violations commises par Israël et à rompre avec des années d'inaction complices en demandant des comptes aux autorités israéliennes. Voilà, on va écouter maintenant une chanson de Youssou N'Dour, Nelson Mandela, elle s'appelle, voilà, sur justement ces problèmes d'apartheid.
La chanson qui suit est dédiée à toutes les personnes qui sont privées de liberté, notamment, surtout, nos frères qui vivent en Afrique du Sud. Amal l'apartheid! Bosana Zambe, Angola Mozambique Zimbabwe, Bosana Zambe. Soweto.
Soweto.
Niku niku warga, fatu niku baju ku Soweto. Dahana kemoro kalatine, tuba biende nyonya. Niku julnya mokuma, tohle tene ni boko. Tude ku mantu sa, Soweto,
Soweto.
Soweto,
Soweto.
Voilà, nous allons donc maintenant parler de la Turquie et notamment de la chasse aux opposants en Europe. Alors c'est un article qui se trouve dans la chronique du mois de février. La chronique, c'est le journal d'Amnesty International France que vous pouvez consulter à la médiathèque de Digne puisque nous avons abonné la médiathèque à ce journal. Mais vous pouvez aussi demander un exemplaire puisqu'on a une offre découverte. Il vous suffit d'écrire à chronique au singulier @amnesty.fr. Vous donnez votre adresse postale et vous demandez l'envoi du numéro de la chronique. Voilà, donc c'est cette histoire que raconte la chronique au mois de février est véritablement une histoire d'espionnage comme on pourrait en voir dans des films, mais c'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Voilà, c'est notamment l'histoire d'un attentat anti-kurde qui a échoué de justesse en Autriche il y a 2 ans. À Vienne, un espion turc chargé d'assassiner une députée se livre à la police en 2020. Au lieu de le juger, l'Autriche l'expulse. En cavale, ce tueur repenti raconte. Le 15 septembre 2020, à Vienne, où elle habite, la députée écologiste d'origine kurde Egul Berivan Aslan sans vibrer son téléphone. Elle nous raconte la conversation. C'est un officier du BVT, le renseignement autrichien, qui m'explique qu'un homme vient de se rendre après avoir reçu l'ordre des services secrets turcs de me tuer. C'est un choc, mais pas une surprise. Depuis des années, cette élue féministe aux cheveux rouges défend la cause kurde et dénonce la répression des opposants politiques en Turquie. Elle fait partie des ennemis du régime d'Erdogan. Au téléphone, elle écoute la description de l'homme missionné pour l'assassiner. C'est un Turc de 53 ans qui s'appelle Feyyaz Öztürk. Pour une raison mystérieuse, il vient de renoncer à sa mission et il demande une protection de l'Autriche. L'agent du BVT met en garde la députée. D'autres tueurs peuvent vous menacer et lui demande de se cloîtrer dans son deux pièces. Elle y restera de longs mois, enceinte, en compagnie de policiers qui la surveillent en permanence. Que fait le tueur repenti pendant ce temps-là? Que divulgue-t-il au service de renseignement? Elle l'ignore. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il doit être jugé le 4 février 2021 pour participation à des tentatives d'assassinat et espionnage militaire pour le compte d'un État étranger. Elle espère un procès historique, celui de la violence du régime d'Erdogan, dévoilant l'action criminelle des services secrets turcs en Europe. Mais le procès n'aura pas lieu. Le 23 décembre 2020, le ministre de l'Intérieur autrichien annonce l'expulsion du turco-italien Feyyaz Öztürk vers l'Italie, arguant qu'il représente un danger imminent pour la sécurité publique. Pour Berivan Aslan, cette décision est un scandale démocratique. Au lieu de juger un tueur d'Erdogan, l'Autriche lui rend sa liberté. C'est se coucher devant les agressions d'un régime étranger hostile sur notre sol européen. Et elle ajoute, qui sait où ce tueur se trouve et ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà, donc c'est une traque sans merci hein, des opposants qui se déroule en Europe. En 2013 à Paris, Ömer Güney, pro-turc proche des loups gris et lié au service secret turc, assassine trois militants kurdes, rue Lafayette. En 2015, le ministère de l'Intérieur turc publie sur Internet une liste de terroristes les plus recherchés et promet une récompense à quiconque aidera à les capturer. La liste comporte aujourd'hui plus de 1000 noms, des militants du PKK, des gulenistes, des djihadistes, ainsi que des opposants n'ayant commis aucune violence. En 2016, tentative de coup d'État en Turquie, le président Erdogan accuse le prédicateur islamiste Fethullah Gulen, exilé aux États-Unis. À l'intérieur, il licencie ou arrête plus de 100 000 militaires, policiers, juges, procureurs, enseignants accusés de trahison. À l'extérieur, il traque 4 600 gulenistes dans 110 pays qui doivent être amenés de gré ou de force en Turquie pour être jugés. À Berne, trois agents secrets turcs ratent l'enlèvement d'un homme d'affaires proche du mouvement Gulen. En 2017, Erdogan signe un décret qui accorde l'immunité à tous les civils, quelle que soit la nature de leur acte, s'ils agissent au nom de l'antiterrorisme. Une cellule clandestine de Turcs basée en France planifie d'assassiner deux chefs kurdes à Bruxelles, mais échoue. En 2018, les services secrets du Kosovo jettent dans un avion privé cinq enseignants turcs soupçonnés d'avoir participé au coup d'État manqué de 2016. Le président Erdogan déclare, à la suite de cet enlèvement, « Où qu'ils aillent, nous les ficellerons tous et les ramènerons ici ». En 2020, un groupe paramilitaire turc prépare l'assassinat de la députée autrichienne Berivan Aslan, mais échoue. Ankara revendique les rapatriements en Turquie de 107 personnes, en provenance d'une vingtaine de pays. La plupart sont réalisés au moyen d'opérations secrètes utilisant des avions privés. En 2021, à Berlin, trois Turcs attaquent au couteau Erk Akarer, un journaliste de gauche exilé en Allemagne, opposant à Erdogan. Les services secrets turcs kidnappent le neveu de Fethullah Gulen au Kenya, ainsi qu'un enseignant guléniste au Kyrgyzstan, et les reconduisent à Ankara. En 2022, le ministère de l'Intérieur turc annonce sur son site internet avoir tué 140 terroristes en 2021, dont des membres du PKK, de Daesh et de groupes de gauche. Voilà, donc c'est une véritable chasse aux opposants dans le monde entier que se livre Erdogan. Alors pourquoi il n'a pas exécuté l'ordre d'assassiner cette députée kurde? Voilà, il a expliqué que le 15 septembre 2020, quand il arrive à Vienne, il fait un choix. « Je ne vais pas assassiner une pauvre femme qui parle des ours et des lesbiennes, qui dénonce Erdogan et les prisons turques, mais qui n'a tué personne. » Je décide de me libérer pour toujours de ce groupe criminel qui me fait chanter pour que je tue des gens. À l'heure du déjeuner, au lieu d'aller récupérer l'arme et les munitions, il va frapper à la porte du bâtiment du BVT, les services secrets autrichiens. En soupirant, il poursuit, vous allez rire. Leur bureau était fermé. J'ai dû repasser plusieurs fois et attendre des jours pour qu'on m'entende enfin prononcer ces paroles. Je m'appelle Feyyaz Öztürk. Je suis missionné pour un projet d'assassinat que je refuse d'exécuter et je viens vous prévenir qu'une élue autrichienne est en danger. Voilà, donc si vous voulez connaître la suite de cette histoire rocambolesque, mais dramatique, vous pouvez donc vous procurer la chronique d'Amnesty, donc c'est le journal d'Amnesty France, où il y a ce dossier hein, sur les exécutions aux opposants en Europe. Donc, pour obtenir la chronique, soit vous allez la lire à la médiathèque de Digne, soit vous écrivez à chronique au singulier, @amnesty.fr, vous donnez votre adresse postale et vous demandez l'envoi du numéro de la chronique de février et on vous l'enverra gratuitement. Voilà, vous pourrez comme ça être informé de la suite de l'histoire que je vous ai racontée, ainsi que d'autres informations sur les droits humains partout dans le monde. On va écouter maintenant une chanson de Brassens, Mourir pour des idées.
D'accord, mais de mort lente, hein.
Oui. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tout ce qu'il avait, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord mais de mort lente, d'accord mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à force et l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus goût le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord mais de mort lente, d'accord mais de mort lente. Les saints Jean Bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs, s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord mais de mort lente, d'accord mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau mais lesquelles. Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage en hésitant tourne autour du tombeau. Mourons pour les idées, d'accord mais de mort lente, d'accord mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin, ici-bas, tout changea, tout s'arrangea. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre, on y serait déjà. mais l'âge d'or sans cesse est remis au calende. Les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les bouts de feu, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Voilà, nous allons maintenant parler d'immigration en France et puis donc de la nouvelle loi, une énième loi. En écoutant l'interview de la responsable de l'immigration à Amnesty International France, voilà, on l'écoute.
Nous ne voulons pas des migrants de Madame Merkel.
Et aujourd'hui, on pense que du coup, toutes les personnes qui vivent avec une obligation de quitter le territoire sont forcément des personnes délinquantes.
Ils ont toute vocation à repartir.
Rentrer illégalement sur le territoire national ont vocation à repartir.
Aujourd'hui, on entend beaucoup la fermeté et pas beaucoup l'humanité. Et ça, c'est de texte en texte, de projet de loi en projet de loi. À vouloir tout accélérer, on détériore les droits. Le gouvernement prend un énième projet de loi pour faciliter les expulsions des personnes étrangères, pour faire une énième réforme du droit d'asile. Et aussi, il y aurait apparemment un aspect sur la régularisation de certaines personnes qui sont des travailleurs et des travailleuses sans papier. C'est le deuxième projet de loi sous la présidence d'Emmanuel Macron sur le sujet de l'immigration et de l'asile. Le dernier date de juste 2018. On n'a même pas vraiment d'études d'impact sur ce qu'il a produit. Aujourd'hui, l'accueil n'est pas satisfaisant et surtout il se détériore de loi en loi, d'année en année. Ni l'accueil des personnes exilées, ni le système d'asile ne fonctionne aujourd'hui. Il y a vraiment énormément de dysfonctionnements, il y a énormément de personnes à la rue, il y a des personnes qui n'arrivent pas à accéder au marché de l'emploi parce qu'il y a des obstacles administratifs immenses, il y a des personnes qui n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour parce que les préfectures sont fermées et barricadées avec une dématérialisation des démarches qui sont très compliquées pour certaines personnes étrangères. Quand on pense à Calais, par exemple, il y a une politique d'expulsion tous les jours ou tous les deux jours des gens qui vivent sous des tentes et à qui on dit tous les jours merci de dégager, merci de partir. C'est des personnes qui ont fait 1000, 3000, 10 000 kilomètres pour arriver à quelques encablures de leur destination finale, le Royaume-Uni, qui ne vont pas s'arrêter là. Il y a eu en 2021 71 enfants qui ont été enfermés en centre de rétention en France hexagonale et plus de 3000 à Mayotte. Un centre de rétention, c'est un lieu avec des barbelés fermés dans lesquels les gens ne peuvent pas entrer et sortir et les personnes y sont pour des raisons administratives, c'est-à-dire qu'elles ont l'obligation de quitter le territoire français et donc elles passent par ces lieux qui sont les lieux où on organise en fait leur éloignement par avion. Et c'est des lieux d'enfermement qui sont extrêmement traumatisants pour les enfants parce que ça a tous les mêmes ressorts qu'une prison finalement, hein. Les bruits, les portes, des personnes en extrême détresse qui côtoient ces enfants. Et donc aujourd'hui, aucun enfant ne devrait jamais être enfermé en centre de rétention pour des raisons administratives.
Le ministre de l'Intérieur dévoile ses pistes pour lutter contre l'immigration clandestine.
Dans un entretien à lire aujourd'hui dans le Figaro, Gérald Darmanin annonce qu'un projet de loi sur la question sera présenté à la rentrée, après la tenue d'une grande concertation avec les partis politiques et les associations. Le ministre avance plusieurs propositions concrètes, Gladys Laffitte.
Le gouvernement est dans une répétition d'un discours qu'on entend depuis des années, c'est la logique de la fermeté et de l'humanité. Mais aujourd'hui, on entend beaucoup la fermeté et pas beaucoup l'humanité, et ça c'est de texte en texte, de projet de loi en projet de loi. C'est juste une répétition, une inflation législative absolument délirante, puisqu'on a presque un projet de loi par an depuis 30 ans.
Plusieurs dizaines de milliers d'immigrés sans papier se retrouvent comme sous Giscard, leur destin.
Le projet de loi qui s'annonce ne va pas du tout dans le bon sens et continue à détricoter le droit d'asile, à détériorer les droits des personnes étrangères. Et en fait, il ne propose rien comme solution qui soit vraiment durable pour les personnes étrangères en France. Il prévoit plein de petites mesures qui sont très finalement technocratiques pour faciliter la procédure, etc. Mais en fait, à vouloir tout accélérer, on détériore les droits. Aujourd'hui, il y a trois juges qui statuent à la Cour d'appel, donc la Cour nationale du droit d'asile, pour décider de la vie des gens finalement. Et le gouvernement voudrait réduire à un seul juge unique qui jugerait pour des situations, pour des gens qui jouent vraiment leur vie, qui devront juger de plein de situations différentes. Le cas d'une petite fille qui a fui l'excision en Guinée, le cas de Kurdes persécutés pour leurs opinions politiques, ou d'un demandeur d'asile, par exemple nigérian, qui est homosexuel et qui ne peut pas vivre son amour et de façon libre. Donc des situations extrêmement diverses qui seront jugées par une seule personne. Si le gouvernement gagne un mois pour les expulser plus vite, derrière il y a d'autres choses qui se jouent, et notamment le droit d'être vraiment entendu, de prendre le temps de pouvoir présenter son recours et de prendre le temps d'expliquer les raisons pour lesquelles on fuit son pays d'origine.
Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout.
Et en vérité, on voit bien que la situation migratoire comme sécuritaire en France, parce qu'on sait que les deux sont liés aujourd'hui en France, est complètement hors de contrôle.
Aujourd'hui, le débat public, il n'est pas sain. Il y a des propos racistes qui sont tenus au plus haut sommet de la représentation nationale, dans l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on pense que du coup, toutes les personnes qui vivent avec une obligation de quitter le territoire sont forcément des personnes délinquantes, des criminels extrêmement dangereux qu'il faudrait absolument renvoyer dans leur pays. Le fait est que parmi toutes les personnes qui ont une obligation de quitter le territoire, beaucoup font des recours et gagnent. Et finalement, l'administration lui dit en fait non, cette personne ne doit pas quitter le territoire et vous avez injonction de leur délivrer un titre de séjour. C'est pas de leur rendre justice que de les assimiler, comme le fait aujourd'hui le gouvernement, à la délinquance, alors que ça représente une toute petite partie de l'immigration en France.
Refugees are people who are properly defined in international law. That's the starting point. I think it is extremely important that if someone flees violence, conflict, human rights abuses, that we call this person what this person is.
Ce qui est sûr, c'est que pour une vraie politique d'accueil et une vraie politique respectueuse des droits humains, il faut de la volonté. Il faut de la volonté pour loger, soigner, permettre aux personnes de travailler. Mais voilà, des personnes qui, par elles-mêmes aussi, ont très envie de travailler et qui sont empêchées par notamment des complications administratives sans queue ni tête et qui n'ont vraiment aucun sens. L'accueil des Ukrainiens, il nous a montré une chose, c'est que la France était capable de répondre présente quand il y avait des grands enjeux de protection internationale.
Nous avons décidé évidemment des aménagements particuliers pour pouvoir écrire en langue ukrainienne un certain nombre de dispositifs, pour pouvoir faire des accueils.
L'Europe est capable d'ouvrir ses frontières quand les personnes sont en recherche de protection. On est capable de proposer un hébergement pour les quelques 100 000 personnes ukrainiennes qui sont arrivées en France.
J'ai également donné comme instruction de prolonger tous les Ukrainiens qui ont un titre de séjour qui venait à se terminer dans les prochains jours, aux prochaines semaines.
De leur proposer des inscriptions à l'école pour les enfants, un accès aux soins directs, un accès au marché du travail directement. On est là aussi pour expliquer dans les médias pourquoi c'est un projet de loi qui nous paraît vraiment attentatoire aux droits des personnes exilées. On est aussi directement en lien avec des députés, des sénateurs pour leur expliquer les enjeux, ce qui se passe sur le terrain. Mais à Amnesty International, on a aussi une forte mobilisation militante qui vont aussi porter une parole absolument essentielle partout en France. En tant que citoyen, la première chose à faire, c'est d'abord de s'informer. Sur ce sujet en particulier, sur lequel il y a tellement de choses fausses qui sont dites, on va publier des choses sur le site d'Amnesty International, sur les réseaux sociaux. Donc nous, on invite vraiment les citoyens à se renseigner, à relayer ces informations-là. Il y a aussi d'autres formes d'engagement. On va appeler les citoyens à interpeller leurs députés, leurs sénateurs, etc. Et donc, il y a d'autres formes d'engagement en ligne, notamment, sur lesquelles on espère que les citoyens nous aideront à porter haut et à faire entendre la voix du respect des droits humains.
Voilà. Donc, informez-vous sur la situation des migrants, et notamment en allant sur le site amnesty.fr. Voilà, on va maintenant parler du Burkina Faso. En effet, le 30 décembre 2022, des dizaines de civils ont été tués par les forces auxiliaires au gouvernement de Hanouna, qui est une ville de 30 000 habitants. Plus de 80 corps ont été enterrés. Ces homicides injustifiés ciblaient principalement les membres de l'ethnie Peul, qui est une population traditionnellement pastorale, musulmane et disséminée dans toute l'Afrique de l'Ouest. Selon des personnes ayant survécu à cette attaque, ce sont des membres locaux d'une confrérie de chasseurs d'ozo, un groupe allié au gouvernement et agissant comme une milice auxiliaire, qui sont allés de maison en maison, ouvrant le feu sur des personnes incapables de s'échapper. Les homicides commis à Nouna ont fait suite à une attaque menée contre une base d'Ozo et un poste de gendarmerie par des combattants islamistes quelques heures auparavant. Le 2 janvier, le parquet local a ouvert une information judiciaire sur l'homicide de 28 civils. Or, des rescapés nous ont déclaré que le nombre de victimes est beaucoup plus élevé, 86 corps au moins ayant été retrouvés et enterrés le 31 décembre. D'autres corps, criblés de balles, ont été retrouvés et inhumés les jours suivants. Le Burkina Faso est aux prises avec une insurrection islamiste depuis 2016, dans le cadre d'un conflit qui a causé la mort de milliers de civils et le déplacement de près de 2 millions de Burkinabés, soit environ un dixième de la population. En janvier 2020, le gouvernement a adopté une loi portant création des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, une milice auxiliaire assistant l'armée dans sa lutte contre l'insurrection. Les membres des VDP reçoivent 15 jours de formation. Leur déploiement se fait souvent en réponse aux demandes de populations locales, mais donne aussi fréquemment lieu à des accusations de ciblage ethnique et d'autres abus. En octobre 2022, le gouvernement a annoncé le recrutement de 50 000 VDP supplémentaires. Presque tous les hommes et garçons de plus de 16 ans ont été tués par des chasseurs d'Ozo, selon les témoins de ce qui s'est passé dans la ville de Nouna. Un de ces témoins nous a dit « 30 minutes après que j'ai parlé au téléphone avec mon père, ma belle-mère m'a appelé dans tous ses états pour me dire que des hommes armés se trouvaient dans le secteur. Ils étaient deux armés et ont demandé à mon père de les suivre. On a plus tard retrouvé le corps de mon père, non loin de là. 38 personnes ont été tuées dans le secteur 6, c'est un des quartiers. D'après ce que j'ai entendu, ce sont celles qui ont été enterrées sous l'autorité du chef traditionnel de Nouna. Alors il est possible que le nombre réel de victimes soit plus élevé. Avec les 48 corps inhumés dans le secteur 6, cela fait au moins 86 morts, a déclaré un autre escapé. Plusieurs jours après cette attaque et l'inhumation des 86 premières victimes, on continue à retrouver des corps. Aujourd'hui encore, c'était le 2 janvier, deux corps ont été récupérés dans le secteur 4 et enterrés. Ils ont été trouvés après l'enterrement des 86 autres le 31 décembre. Depuis le 30 décembre, je n'ose plus sortir de chez moi. Il n'y a aucune sécurité pour nous et j'aimerais quitter la ville. Voilà, donc on voit que ces forces, ces chasseurs d'Ozo s'en prennent à des particuliers qui n'ont rien à voir avec les djihadistes de la région. Alors quelles sont nos demandes par rapport à ce problème ? Nous exhortons les autorités burkinabées à protéger les civils et à garantir que les personnes soupçonnées des tueries de Nouna soient amenées à rendre des comptes. Il est possible que ces homicides délibérés de civils constituent des crimes au regard du droit international. Nous demandons au gouvernement de diligenter immédiatement une enquête approfondie et impartiale qui permette de traduire en justice les auteurs présumés de ces atrocités. Nous demandons également au gouvernement de condamner publiquement ces atrocités et d'obliger les responsables de ces attaques à rendre des comptes une fois leur culpabilité établie. Ces abus ne doivent pas se répéter. Voilà. On va maintenant écouter une chanson, justement une chanson du Burkina, Miss Maya.
Bye. Alaji Omar Marco Sore Mikaila Honoré Balzac
La belle ramène Bonon Amambi Bonda Tumambe Fontoué
Abila Fumie Maya Mamdata Fumia Sidem Amchon Nong Fumbe Nayali
La belle ramène Bonon Amambi Bonda Tumambe Nayali
Abila Fumie Maya Mamdata Fumia Sidem Amchon Data Fumia
Voilà, nous parlons maintenant d'un projet de loi concernant les Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu à Paris. Le Sénat a terminé l'étude du projet de loi relatif aux Jeux Olympiques. Certaines mesures soulèvent de graves préoccupations. Le texte légaliserait pour la première fois en France l'utilisation d'une surveillance s'appuyant sur des systèmes d'intelligence artificielle, une pratique qui comporte de graves dangers pour nos droits. On est notamment très inquiet par rapport à l'article 7 du projet de loi qui propose d'expérimenter la vidéosurveillance algorithmique avec pour objectif affiché de garantir la sécurité autour d'événements publics importants. Concrètement, des algorithmes vont analyser des images issues de caméras fixes ou de drones pour détecter et signaler en temps réel des comportements anormaux ou suspects, des prédéterminés, sans que ne soit précisé ce que recouvrent ces notions. Si la lutte contre la criminalité ou le terrorisme est légitime, elle doit cependant être encadrée et répondre à des critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Or, la disposition proposée par l'article 7 ne remplit pas ces conditions. Certes, le gouvernement affirme qu'aucune donnée biométrique ne sera utilisée pour identifier des personnes. Pour autant, les algorithmes évalueront des comportements en analysant des données corporelles et comportementales qui sont des données personnelles relevant du droit à la vie privée et devant être protégées. Par ailleurs, l'efficacité de cette technologie d'évaluation pour lutter contre la criminalité fait l'objet de vives critiques de la part de la communauté scientifique. Se penser ou se savoir surveiller peut également amener des personnes à modifier leur comportement ou s'auto-censurer. L'effet dissuasif d'une telle surveillance de l'espace public comporte donc également un risque d'atteinte au droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique. L'exception risque donc de devenir la norme dans un contexte de volonté très claire des autorités françaises d'élargir leur pouvoir de surveillance. Les Jeux olympiques ne doivent pas servir de prétexte pour faciliter l'instauration d'un état d'exception permanent. Amnesty International France appelle donc les parlementaires français à refuser d'ouvrir la voie à une normalisation de pratiques de surveillance préoccupantes pour nos libertés et à prévenir les risques de dérives dangereuses. Voilà, on écoute maintenant Pierre Perret, La bête est revenue.
Sait-on pourquoi un matin cette bête s'est réveillée au milieu de pantins, qu'elle a tous émerveillé en proclamant partout haut et fort, nous mettons l'étranger dehors. Puis cette ogresse aguicheuse fit des clones imitatifs, leurs tirades insidieuses convainquirent les naïfs qu'en suivant leur dictat xénophobe, on chasserait tous les microbes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. D'où cette bête a surgi, le ventre est encore fécond. Bertolt Brecht nous l'a dit, il connaissait la chanson, celle-là même qu'Hitler a tant aimé, c'est la valse des croix gammées. Car pour gagner quelques voix des nostalgiques de Pétain, c'est les juifs encore une fois que ces dangereux ariens grandiront comme un épouvantail dans tout leur sinistre éventail. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. N'écoutez plus, braves gens, ce fléau du genre humain, l'aboiement écœurant de cette bête à chagrin, instillant par ses chants de sirène la xénophobie et la haine. Laissons le soin aux lessives de laver plus blanc que blanc les couleurs enjolives, l'univers si différent. Refusons d'entrer dans cette ronde qui promet le meilleur des mondes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur dont les 100 000 bouches crachent le malheur. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. Car vois-tu petit, je l'ai vu, la bête est revenue.
Voilà, très belle chanson de Pierre Perret, et toujours, hélas, d'actualité, et qui nous dit qu'il faut être vigilant afin que la bête ne revienne pas. Voilà, on va maintenant parler des actions du groupe Dinois. Donc, nous avons un dossier de prisonnier d'opinion. Donc, un prisonnier d'opinion, Amnesty, c'est quelqu'un qui se retrouve en prison uniquement pour avoir exprimé de façon pacifique ses opinions. Et le dossier que le groupe de Digne, avec d'autres groupes en France, a, c'est celui de Luis Manuel Otero Alcantara. C'est un artiste cuba qui vient d'être condamné à 5 ans de prison pour avoir exercé pacifiquement sa liberté d'expression et son art. Alors, comme c'est un artiste, nous nous sommes rendus la semaine dernière dans la classe préparatoire à l'école des Beaux-Arts de Digne, afin de présenter bien sûr Amnesty aux jeunes, mais de parler aussi de notre prisonnier d'opinion, qui est un artiste comme eux, et de montrer que dans certains pays, ben, les artistes n'ont pas la liberté de créer. En effet, à Cuba, beaucoup d'artistes s'opposent à ce qui est appelé le décret 349. C'est un décret qui vise à ce que toute œuvre, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une chanson, un roman, une œuvre d'art plastique, toutes ces œuvres, toutes ces créations doivent, avant d'être réalisées, faire l'objet d'une autorisation par le gouvernement. Donc, de nombreux artistes cubains se sont élevés contre ce décret qui, en fait, est une censure. Et Luis Manuel Otero Alcantara est un des porte-parole de l'association qu'ils ont créée, qui est une association qui s'appelle San Isidro, du nom du quartier pauvre dans lequel Luis Manuel Otero Alcantara habite. Voilà, et donc ce mouvement veut la fin de ce décret de censure et s'oppose violemment donc à cette à cette censure. Il a été arrêté, il a fait plusieurs fois de la prison, plusieurs fois il a été reconnu comme prisonnier d'opinion par Amnesty. Mais dernièrement, donc le 11 juillet 2020, il y avait des manifestations prévues ce jour-là, contre notamment la liberté d'expression de réunion, mais aussi contre les problèmes de vie. Manifestations très importantes, les plus importantes depuis des décennies. Et Luis Manuel Otero Alcantara, qui est surveillé depuis très longtemps, a simplement posté qu'il y avait des manifestations et qu'il y allait. Il n'a pas eu le temps d'y aller, il a été arrêté par la police. Et puis ensuite, il a été jugé à huis clos. Donc Amnesty International n'a pas pu assister à son jugement. Donc un jugement inique. Et il a été condamné à 5 ans de prison juste pour avoir dit qu'il allait à une manifestation. Voilà, donc notre idée, c'est que... Et là, je fais un peu un appel à tous les artistes du bassin dinois. Notre idée, c'est de soutenir cette personne dans l'objectif de le faire libérer. Donc, de présenter son cas. Et pour cela, on fait appel aux artistes dinois. Ce qu'on aimerait faire, c'est arriver à faire une exposition d'œuvres réalisées pour lui sur le thème de la liberté d'expression dans l'art. Et donc, si des artistes dinois veulent participer à cette aventure, contactez-nous. Hein. Donc Amnesty International, groupe de Digne, et nous serions heureux que vous participiez. On aimerait faire une exposition à l'École des Beaux-Arts et puis aussi à la médiathèque de Digne pour parler de ce cas, faire signer sa pétition et puis aussi lui envoyer des cartes de soutien, parce que quand on est injustement emprisonné, le soutien venant du monde entier a des effets très importants sur le moral déjà, et puis a des effets aussi sur le gouvernement qui fait des choses qui sont contraires à la justice. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez créer quelque chose pour lui et sur la liberté de création. Voilà. Un dernier mot, on en reparlera à la prochaine émission, mais déjà vous pouvez retenir les dates. Au mois de mars, nous organisons un festival de films dans toute la région. Et à Digne, nous avons trois dates importantes. Le 16 mars, c'est un jeudi à 18h15 au Ciné-Étoile. Nous allons passer un film en avant-première, Le Bleu du Caftan. C'est un très beau film qui devrait attirer beaucoup de monde et recevoir pas mal de prix. On aura aussi un invité qui animera un débat par la suite. Le 23 mars, toujours un jeudi, à partir de 18h, nous offrons une soirée de court-métrage avec entrée gratuite. Donc vous verrez 9 court-métrages que nous avons sélectionnés et qui parlent bien sûr de droits humains et de façon variée. Donc ça sera une soirée que nous offrons le groupe d'Amnesty ainsi que Ciné-Étoile à tous les gens qui voudront bien venir. Et enfin, le 30 mars à 18h, nous passerons le Chant des Vivants en collaboration, en partenariat avec Réseau d'éducation sans frontières et l'association Soutien aux jeunes isolés étrangers qui s'est créée sur Digne. Donc le Chant des Vivants parle de migrants, de migrants qui se retrouvent dans le village de Conques, un tout petit village dans le sud-ouest. Et il y a une association là qui s'occupe de ces migrants. Donc c'est une histoire vraie, c'est un documentaire passionnant où les gens de cette association discutent avec les migrants, les aident, leur donnent des cours de français, les aident à exprimer leur histoire, à faire des recours, à rédiger des courriers. Et puis vient cette idée, en collaboration bien sûr avec les migrants, de mettre en chanson leur témoignage. Donc les migrants, avec l'aide de musiciens, vont se mettre à rédiger leur histoire sous forme de chansons et puis à les chanter. Donc, à la fois, il y a des témoignages qui sont assez difficiles parce que beaucoup sont passés par la Libye. Et la Libye, bon, c'est bien connu pour être un enfer. Mais en même temps, on voit comment le chant peut les aider à penser à leur histoire et à penser leur plaie en même temps. Voilà, donc c'est un très beau film. J'espère que vous viendrez nombreux, que tous ceux qui aiment les chants, il y en a beaucoup, hein, puisqu'il y a beaucoup de chorales sur Digne et beaucoup de chanteurs amateurs. J'espère que vous viendrez nombreux, hein, tout public, écouter ces chants, le chant des vivants, dans un film que nous passerons donc le 30 mars. Alors les films, le 16 mars et le 30 mars, l'entrée c'est 5 euros, c'est le tarif unique. Donc on a un tarif qui est vraiment très intéressant. Et puis je vous rappelle que le 23 mars, ce sera une entrée gratuite pour la soirée de court-métrage. Voilà, on termine notre émission par la belle chanson de Michel Berger, Diego.
C'est si fort dehors, dehors il fait chaud. Des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Mais quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. À lui, Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, déjà mort, peut-être.